السلام علیکم و رحمت اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذروا ظاهر الاسم وباطنا ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون اور تم گناہ کے ظاہر
اور assurément, ceux qui gagnent le péché seront rétribués pour ce qu'ils auront gagné. Dans ce verset, le mot « ithm » a été utilisé à deux reprises. « Ithm » signifie, entre autres, « péché » ou « crime ». Cela signifie aussi commettre une erreur ou outrepasser les limites. Cela signifie aussi une action qui mérite châtiment ou des actions ou des pensées qui nous empêchent de faire de bonnes actions ou une action illégale. Le terme « dhanb » signifie aussi « péché », mais selon les lexiques, il y a une différence entre le terme « dhanb » et « ism ». Selon certains, « dhanb » signifie des péchés qui ont été commis sciemment ou inconsciemment, mais le terme « ism » s'applique aux péchés que l'on commet sciemment. Dans ce verset, Allah nous fait comprendre deux choses par rapport au terme « ithm ». Il est dit que vous devez éviter les péchés manifestes et les aspects secrets des péchés. Avant d'accomplir une action quelconque, réfléchissez. Il est évident dans certains cas que certaines actions sont des péchés. Et on voit clairement que ce sont des actions que Satan nous a incité à commettre. Mais il y a aussi d'autres types d'actions, des actions qui sont apparemment louables. mais ces actions ont de mauvaises conséquences. La réalité de ces actions est inconnue. Satan incite à commettre ces actions en disant que ce n'est pas là un grand péché. Mais après avoir commis cette action, c'est là qu'on réalise que c'était une bassesse et qu'il sera difficile de s'en extirper. Et on se retrouve dans un cercle et après avoir commis un péché, on commet un autre. Allah déclare que ceux qui marchent sur les voies de la taqwa doivent éviter les aspects manifestes des péchés, c'est-à-dire ils doivent éviter les péchés manifestes et les péchés secrets. Avant d'accomplir toute action, ils doivent implorer l'aide de Dieu. Et ils doivent demander à Dieu de les protéger des mauvaises conséquences de ces actions. Il ne faut pas se contenter de regarder la beauté extérieure d'une action. S'il y a des doutes ou une certaine ambiguïté, l'on doit réfléchir bien avant d'accomplir cette action. Et avant d'accomplir cette action, on doit demander à Dieu de nous guider. Ainsi, cette tâche sera bénie et on va aussi éviter les conséquences de ces actions si ces conséquences sont mauvaises. Et ainsi, l'on sera protégé du mal. Dieu déclare aussi que si l'on ne suit pas les règles de la taqwa lorsqu'on agit et si on ne prend pas des précautions et si on ne fait pas la distinction entre ce qui est licite et illicite, on sera coupable de péché. On sera châtié pour les péchés commis. On ne pourra pas prétexter l'ignorance. Dans un verset précédent, Allah a énoncé un principe en disant qu'il y a nombre de gens qui égarent les autres par leurs mauvais désirs. Vous devez donc être vigilant, nous fait comprendre Dieu. Vous devez faire la différence entre ce qui est licite et ce qui est illicite. Et vous devez éviter les péchés. Le terme « ism » a été utilisé ici. Et il est dit que si vous n'évitez pas ces mauvaises voies, si vous n'évitez pas ces mauvaises actions, et si vous êtes influencé par ceux qui incitent au mal, alors vous allez commettre un péché et vous allez commettre ce péché sciemment en toute connaissance de cause. Et quant à ceux qui commettent les péchés en toute connaissance de cause, ils seront châtiés. À propos des péchés, à propos du terme ism, Dieu a donné plusieurs commandements, des commandements que je vais évoquer ici. À titre d'exemple, dans la sourate Al-A'raf, Allah a déclaré قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
Dis, mon Seigneur m'a interdit que les indécences, qu'elles soient commises ouvertement ou en secret, et il a interdit aussi le péché et la transgression injustifiée, et que vous associez avec Allah ce pourquoi il ne vous a accordé aucune autorité, et que vous disiez d'Allah ce que vous n'avez aucune connaissance. Dans ce verset, Allah a expliqué ce sujet davantage, à savoir que l'islam interdit avec vigueur tout péché, toute action qui a été incitée par Satan. Le croyant doit être en quête de ces actions qui vont le rapprocher de la taqwa, et doit aussi éviter les actions qui vont l'écarter des voies de la taqwa. Et quelles sont ces actions qui vont l'éloigner de Dieu? Il y a certains péchés que l'homme ignore. Et Satan est toujours à l'affût. Il essaye tout le temps d'égarer l'homme et il veut tout le temps l'attirer vers ses péchés. Et il embellit ses péchés afin de le leurrer, afin de l'attirer, en lui faisant croire que ce ne sont pas là des péchés, mais que ce sont de bonnes actions. Ensuite, en commettant ses péchés, il va en commettre davantage. Allah nous a donc avertis. Il nous demande d'éviter ces péchés, car si l'on commet ces actions, l'on va mériter un châtiment. Il est dit, Inama harama rabbi al-fawahisha. Mon Seigneur a interdit toute action indécente, commise ouvertement ou en secret. Allah a déclaré que les actions indécentes sont interdites, mais il ne s'est pas arrêté là. En évoquant ces indécences, il a aussi mentionné les remèdes. Il nous a montré comment éviter ces actes indécents. Il déclare dans un verset, Inna salata tanha anil farsha wal munkar. Assurément, la prière nous protège des choses condamnables et des actes indécents. Aujourd'hui, on est en contact quotidien avec ces actes indécents et ces choses condamnables. Ce sont des actions qui nous attirent. C'est pour cette raison que l'on doit prier 5 fois par jour afin de s'en protéger et afin de jouir de la protection de Dieu. Le Messie premier a déclaré à ce propos, c'est quoi Allah soit là? C'est une supplication grâce à laquelle l'homme arrive à se protéger de tout type de péché, et c'est une prière grâce à laquelle il accomplit de bonnes œuvres et ainsi il va mériter récompense. Il est dit que le plus grand nom de Dieu est Allah et que tout attribut de Dieu découle de ce nom Allah. Il déclare aussi que la prière débute avec l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière. Et l'adhan débute avec Allah Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand. L'adhan débute avec le nom d'Allah et se termine avec le nom d'Allah. Ce culte de Dieu a été enseigné par l'islam uniquement. Dès le début jusqu'à la fin, on a pour but qu'Allah. Il déclare aussi que ce culte de Dieu est inconnu des autres religions. La salat est une supplication dans laquelle le nom d'Allah a prééminence. Et le maître mot pour l'homme est la persévérance. Le maître mot signifie le terme par lequel l'homme arrive à atteindre l'apogée des excellences. Si nous méditons sur cette phrase du Messie premier l'Islam, que le maître mot de l'homme est la persévérance, l'on va s'atteler à accomplir cette soi-là et à se rapprocher de Dieu. Quand l'homme arrive à se rapprocher de Dieu, c'est là qu'il arrive à accomplir cette soi-là, cette prière qui va le protéger des assauts de Satan. Et ainsi, il ne va plus commettre des actes indécents et il sera héritier des grâces de Dieu. Il va pouvoir éviter les actes indécents manifestes et secrets. Le Messie premier l'Islam nous a guidés à ce propos. Il déclare que la Salat est une action qui embellit la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà. La Salat protège l'homme de tout acte immonde et de toute mauvaise action. Mais l'homme n'est pas à même à prier ainsi. Sans l'aide de Dieu, sans le soutien de Dieu, on n'arrivera pas à prier ainsi. Tant que l'on ne prie pas régulièrement, l'on n'arrivera pas à faire naître en soi cette humilité. C'est pour cette raison que matin et soir, vous devez prier à chaque instant, vous devez supplier Dieu. Nous devons donc nous souvenir de Dieu et nous devons remplir notre cœur de ce souvenir afin que nous puissions éviter ces actes indécents que nous voyons partout autour de nous aujourd'hui. Car sans cela, Satan va nous pousser vers ses péchés. Il va nous pousser à commettre ses péchés. Et ainsi, nous allons négliger nos devoirs. Et ainsi, on va commettre des fautes les unes après les autres. Et ainsi, on sera désobéissant à l'égard de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est dit que vous devez éviter la rébellion. La rébellion est interdite. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez outrepasser les limites. Vous n'aurez pas conscience des actions qui sont pures et qui sont louables et quelles sont les actions qui sont impures. Il y a un nombre de personnes qui prient, mais qui outrepassent les limites fixées par Allah. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on doit implorer l'aide de Dieu afin d'accomplir la soi-là comme il doit être accompli. Et pour cela, on doit générer en soi la crainte de Dieu à chaque instant. On doit éviter toute forme de polythéisme. Lorsqu'on va agir ainsi, c'est là que l'on sera considéré comme un croyant véritable et c'est là qu'on va éviter les actes indécents. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah déclare à propos du terme ithm que Yas'alunaka anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge sur le vin et le jeu du hasard. Dis-leur, tous deux comportent un grand péché en même temps que certains avantages pour les hommes. Mais le péché l'emporte sur les avantages. Il est dit à propos du vin et du jeu du hasard que ce sont des grands péchés. Il y a aussi des avantages, mais il est dit que les péchés, les maux dépassent de loin les avantages. Allah déclare à la fin qu'il vous explique clairement les signes afin que vous compreniez. Il est donc clair qu'Allah a mis certains avantages dans toute chose qu'il a créée. Et il y a aussi des désavantages. Mais on doit avoir en tête ce principe de base, que si les désavantages sont plus grands que les avantages, on doit éviter ces actions. Et l'alcool et les jeux du hasard sont de grands péchés. En dépit de certains avantages, ces actions vont pousser vers de plus grands péchés. Et j'ai expliqué le terme « ithm ». À ce propos, Allah déclare « وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا » Quant à celui qui va accomplir ses actions, il va goûter le châtiment de ses actions. Allah a déclaré qu'il y a des avantages dans ses actions, mais il a aussi déclaré que vous devez réfléchir à ce propos, mais cela ne veut pas dire que vous devez y chercher vos avantages. Ce n'est pas à vous d'en tirer des avantages grands ou petits. Vous devez comprendre que si vous accomplissez ces actions condamnables, vous allez commettre de grands péchés et vous serez châtié. Il est dit « Ithmuhuma Akbar », à savoir que vous serez châtié pour ces péchés. Et une fois que l'on commet ce péché, on va en commettre davantage. En toute connaissance de cause, vous allez tomber dans ce trou. Vous allez tirer plaisir de cette ivresse. Et ainsi, vous serez coupable de rébellion et vous allez mériter châtiment. Ces actions pousse l'homme à dilapider ses biens, à rendre impurs ses biens. Il va gaspiller ses biens purs, et d'autre part, il va combiner ses biens purs avec des choses impures, et il va rendre impurs tous ses biens. Quant à celui qui consomme de l'alcool, il va dilapider ses biens, il va nuire à sa santé. Dans un autre verset du Saint-Coran, Allah nous fait comprendre que l'alcool, les jeux du hasard, les idoles et les flèches divinatrices sont des œuvres de Satan. Ces actions nous empêchent d'accomplir nos actes d'adoration et de nous tourner vers Dieu et d'accomplir de bonnes œuvres. Dans la sourate Al-Maïda, il est dit « Ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsum min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqia baynakumul adawata wal bagdwa'a fil khamri wal maisiri ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنا ما على رسولنا البلاغ المبين. Ô vous qui croyez les intoxicants et les jeux de hasard et les idoles et les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination, œuvre de Satan. Fuyez donc chacune de ces choses afin de prospérer. Satan ne désire seulement que créer de l'inimitié et de la haine parmi vous au moyen des intoxicants et des jeux du hasard et vous retenir ainsi du souvenir d'Allah et de la prière. mais vous en abstiendrez-vous. Et obéissez à Allah et au messager et soyez sur vos gardes. Mais si vous tournez le dos, alors sachez bien que notre messager n'est chargé que de transmettre clairement le message. Aujourd'hui, dans ces pays, les jeux du hasard et l'alcool sont monnaie courante. Et là où il y a des restrictions, les gens agissent ainsi ou consomment de l'alcool clandestinement. Non seulement que ces pratiques sont monnaie courante ici, mais ici, on encourage, on incite même les gens à s'empêtrer dans ces péchés. Dans les services stations, dans les grands magasins, il y a ces machines à sous, ces jeux du hasard. En ce qui concerne le polythéisme, le shirk, même si on ne voit pas des idoles physiques, nombre de personnes se sont bâties des idoles dans leur cœur. Même après avoir cru, il y a nombre de personnes qui ne se soucient pas de certaines pratiques. Et ces idoles deviennent des entraves dans leur sac d'adoration, les empêchent de prier. La sola, qui est un moyen d'enlever ces actes indécents, eh bien, ils n'arrivent pas à accomplir cette sola en raison de leur shirk. Ensuite, il y a les flèches divinatrices, et aujourd'hui, cela a pris la forme des loteries. Les gens dépensent de l'argent et achètent ces tickets de loterie. Tout cela est interdit. Allah déclare que ce sont des actes que Satan nous incite à commettre. Le vrai croyant doit être persévérant dans ses actes d'adoration. Il doit s'évertuer à accomplir de bonnes œuvres et doit éviter les péchés et l'indécence. Il doit être persévérant dans cette lutte. Et il va faire preuve de persévérance lorsqu'il va se tourner vers Dieu, lorsqu'il va accomplir sa sola. En ce qui concerne ses péchés et ses bonnes œuvres, Allah déclare dans le Saint-Coran que Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan wa taqullaha inna allaha shadidul iqab. Et entraidez-vous en intégrité et en piété, mais ne vous aidez pas mutuellement en péché, en transgression. Et craignez Allah, assurément le châtiment d'Allah est rigoureux. Voilà donc l'enseignement sublime de l'islam. Au tout début, dans ce verset, il est dit que l'animosité ou l'injustice de l'ennemi ne doivent pas vous pousser à agir injustement. Et il est dit ensuite que vous devez vous entraider à accomplir de bonnes œuvres. La taqwa se trouve dans le cœur du vrai croyant. Vous devez tout le temps vous entraider à accomplir de bonnes œuvres. C'est la taqwa qui va vous pousser à accomplir davantage de bonnes œuvres. S'il y a quelque chose que le croyant doit répéter, c'est cette intention d'accomplir de bonnes œuvres. Et s'il y a quelque chose qu'il doit éviter, ce sont les péchés et l'injustice. Il ne sied pas aux croyants que de commettre ces péchés. Il ne sied pas aux croyants de commettre des péchés en toute connaissance de cause. Il ne sait pas aux croyants d'agir injustement. Celui qui est injuste n'est pas conscient de ses actions et il pousse à l'extrême ses actions injustes. Allah déclare donc que si vous commettez ces péchés et que vous insistez sur cette voie du péché, alors sachez qu'Allah est sévère en châtiment. En dépit de cet enseignement sublime, l'islam subit les attaques de toutes parts, à savoir que l'islam a été répandu par la force de l'épée, que l'islam prône la violence, et aujourd'hui, de temps en temps, on voit ces attaques contre l'islam. Mais si l'on étudie la situation, l'on va voir qu'il n'y a que l'injustice ici. Voyez ce qui s'est passé en Irak et dans d'autres pays. Nous avons vu ce qui s'est passé à propos de l'injustice à propos de l'Irak. Il y a eu une enquête publique ici au Royaume-Uni et nombre de personnes ont accepté que c'était là un acte injuste. Mais il y a d'autres qui ont déclaré dans cette enquête qu'on devait attaquer l'Irak et ce qu'on a fait était juste. Mais l'islam ne prône pas de tels enseignements. L'islam déclare que si vous avez commis une erreur, vous devez accepter votre erreur et lorsqu'il y a moyen de se réconcilier, vous devez vous réconcilier, vous devez agir avec taqwa, vous devez répandre la vertu et vous devez éviter toute forme d'injustice. Si vous n'agissez pas ainsi, alors sachez que, même dans ce cas, le croyant méritera châtiment. Puisque c'est ainsi que nous devons agir à l'égard des non-musulmans, cela veut dire que l'on doit faire preuve de grandes excellences à l'égard des siens. À ce propos, le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on doit aider nos frères qui sont faibles et on doit les renforcer. Il sera inapproprié à une personne qui sait nager que de laisser noyer son frère qui ne sait pas nager. N'incombe-t-il pas à celui qui sait nager que de sauver son frère de la noyade? Il incombe à cette personne qui sait nager que de sauver son frère. C'est pour cette raison qu'il est dit dans le Saint-Coran « Ta'awanu 'alal birri wat taqwa ». Soutenez vos frères qui sont faibles. Soutenez-le dans leur foi, dans leurs finances. Et soutenez-les physiquement aussi. Aucune jamaat ne sera de vraie jamaat tant que l'on ne soutient pas ceux qui sont faibles. Et cela veut dire tout simplement que l'on doit couvrir leur faiblesse. Voilà l'enseignement qui a été donné aux compagnons du saint prophète Mohammed paix sur lui. Il leur fut dit qu'ils ne doivent pas incommoder les nouveaux musulmans en raison de leur faiblesse, car ils étaient eux-mêmes faibles auparavant. Les grands et les forts doivent soutenir les faibles. La jamaat ne sera plus une jamaat si l'on commence à s'entretuer, si l'on commence à médire sur les faiblesses d'un frère qui est faible. La jamaat ne sera pas une jamaat si on commence à mépriser ceux qui sont faibles. On doit être unis afin de se renforcer. Lorsqu'on va agir à l'unisson, il y aura une unité et l'amour et les bénédictions vont en découler. Pourquoi ne pas faire preuve de persévérance? Cela va se faire lorsqu'on va faire preuve de grâce et d'amour, lorsqu'on va couvrir les faiblesses des autres. Cela va se faire lorsqu'on va faire preuve de grâce et d'indulgence. On ne doit pas se courroucer en voyant les moindres faiblesses des autres, car cela va blesser les sentiments des autres et cela va créer de l'inimitié. On doit faire preuve de sympathie, on doit couvrir les faiblesses des autres. Lorsque telle sera la situation, c'est là que l'on va agir à l'unisson et c'est là qu'on va accorder prééminence à son frère. Voilà ce que Dieu a enseigné aux compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Voilà ce qui a été dit à propos de la fraternité qui les unissait. Il leur fut dit que même s'ils avaient dépassé une montagne d'or, ils n'auraient pas eu cette fraternité qui naquit parmi eux par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Dieu a donc créé cette jamaat et il veut établir cette fraternité dans cette communauté. Voilà donc les vertus et les excellences qui vont nous faire progresser dans la taqwa et qui vont nous rapprocher de Dieu et qui vont nous empêcher d'être injustes. Lorsqu'on va se rapprocher de Dieu par les actes d'adoration, l'on va s'acquitter de ses devoirs envers les créatures de Dieu. Ensuite, il y a un autre grand péché qui a été évoqué dans le Saint Coran. Allah déclare Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ô vous qui croyez, évitez d'avoir trop de soupçons, car dans certains cas, le soupçon est un péché, et n'espionnez pas et ne médisez pas non plus les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Certainement, vous en auriez horreur, et craignez Allah, assurément Allah est celui qui revient très souvent avec compassion, il est miséricordieux. Allah veut faire naître parmi les croyants la fraternité et l'amour. Et cela va découler des bonnes pensées qu'on a à l'égard des autres. Il est donc dit que vous devez éviter ces soupçons et ces suspicions, car cela amène au péché. Les suspicions vont nuire à votre âme. C'est là un grand péché qui va saper la paix de la société. Ces péchés vont éloigner les cœurs. Allah a déclaré que c'est un très grand péché. C'est un péché que l'on commet pour satisfaire son égocentrisme. Ensuite, il est dit que vous ne devez pas vous espionner les uns les autres. On va espionner l'autre en raison de ses suspicions. Et si, après avoir espionné, on n'a pas pu avoir les informations voulues, l'on va se baser sur les bribes d'informations pour bâtir d'autres soupçons. Et dans certains cas, on est si aveuglé par ces soupçons que cela nous étonne même. Il y a de grands érudits, des personnes qui rendent de grands services à la communauté, qui disent qui prononce des paroles que même une femme sotte et ignorante n'aurait pas osé prononcer. On accorde de grande importance à de petits griefs et certaines de ces personnes croient qu'il n'y a pas chose plus importante de leur vie que ces griefs à l'égard des autres. En raison de ces pensées, de ces soupçons, ces personnes nuisent à leur travail et ils rendent leur vie désagréable et ils rendent la vie de leurs victimes oppressante et ils répètent leurs paroles ici et là. Des fois, ces cas me sont présentés et lorsqu'on fait une enquête, on voit que ces soupçons étaient infondés, qu'il n'y avait que des choses insignifiantes derrière ces soupçons. Et dans certains cas, celui qui émet ces griefs n'a aucun lien direct avec la personne à propos de laquelle elle a des griefs. Elle a entendu quelque chose à propos de l'autre, elle est intéressée à propos de ses défauts et elle commence à espionner à propos de l'autre pour connaître davantage et ensuite elle amplifie les défauts de l'autre et commence à en parler à droite et à gauche.
«
Lorsqu'on parle de quelqu'un d'autre, lorsqu'on parle de cela à droite et à gauche, on rend la vie de l'autre oppressante. Et toute personne va regarder l'autre de travers comme si cette personne a commis un grand péché. Et la victime doit se cacher des regards des autres. En tout cas, c'est un très grand péché qui a été condamné sévèrement par Dieu. Et tout Ahmadi doit s'en prémunir. Il y a aussi la médisance. La médisance ne réforme pas la société. Au contraire, la médisance attise la haine au sein de la société. Et Allah a déclaré que vous médisez tranquillement, vous en tirez un grand plaisir. Vous commencez à cracher vos venins à l'encontre des autres, mais sachez que cette action est un péché infâme, condamné par Dieu. C'est comme si vous êtes en train de consommer la chair de votre frère. Et qui est celui qui ne sera pas dégoûté que de consommer la chair de son frère? Voilà ce que signifie la médisance. Cela signifie parler des défauts d'un autre derrière son dos. Si vous voulez réellement réformer cette personne, alors conseillez-le en apporter loin des autres afin qu'elle puisse se réformer. Si cette personne ne se réforme pas, alors informer les responsables de la Jamaat, informer l'amir de la Jamaat. Et si vous n'êtes pas satisfait à ce propos, alors transmettez-moi ce message. Et il y a des personnes qui émettent des doléances, mais en étudiant ces doléances ou ces griefs, l'on voit clairement que ces personnes n'ont pas pour but de réformer l'autre, mais ils veulent tout simplement cracher leur venin. Et dans la plupart des cas, ces personnes écrivent des lettres anonymes. Ils écrivent à la fin un Ahmadi ou une personne pleine de sympathie. Ou dans d'autres cas, ces personnes donnent de faux noms ou de fausses adresses. Ces personnes qui écrivent des lettres anonymes veulent tout simplement abaisser les uns ou les autres à mes yeux, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et en écrivant des lettres anonymes, ils font tout simplement comprendre qu'ils n'ont pas de sympathie à l'égard des autres. Ils veulent tout simplement diffamer l'autre. Généralement, on ne prend pas d'action suite à ces lettres anonymes. Et quant à moi, j'agis avec justice, je vais faire une recherche profonde. Et puisque la lettre a été anonyme, on ne pourra pas faire de recherche. Et même si on a pris des sanctions à l'encontre d'une personne, moi je ne ressens pas de la haine à l'égard de cette personne. Au contraire, je ressens de la douleur, car un Ahmadi a été puni pour une action quelconque. Un Ahmadi doit comprendre qu'Allah a déclaré Wattakullaha, craignez Allah, innallaha tawwabur rahim. Craignez Allah, car Allah accepte le repentir et Allah est miséricordieux. Quant à ceux qui ont l'habitude de mépriser les autres, de médire ou de soupçonner les autres, eh bien, ces personnes doivent se réformer, doivent craindre Dieu et doivent demander pardon pour leurs péchés. Allah déclare que si vous vous tournez vers lui, le cœur contrit, il va accepter votre repentir et il va vous traiter avec miséricorde. Le Messie premier, alayhi salam, déclare que les troubles nés du fait que l'on entretient des soupçons à l'égard des autres. On a des idées mal reçues à l'égard des autres. Si on a des pensées positives à l'égard des autres, on aura l'occasion de donner quelque chose. Si à la première étape on a commis cette erreur, il sera difficile d'atteindre la destination. Les soupçons sont condamnables, car ces soupçons privent l'homme de grandes actions. Et en fin de compte, en raison de ces soupçons, on a des soupçons à l'égard de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que ces soupçons déracinent la vérité. C'est pour cette raison que vous devez éviter ces soupçons et ces mauvaises pensées, et vous devez faire des prières pour être parmi les siddiques. Certains péchés sont subtils et l'homme s'empêtre dans ces péchés inconsciemment. Et même à un âge avancé, il ne sait pas qu'il est en train de commettre un péché. Il a par exemple l'habitude de médire. Les gens considèrent ce péché comme un péché insignifiant, alors que ce péché a été condamné par Dieu. Il est dit « Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma ahi » Allah déteste que l'homme prononce des paroles de mépris à l'égard de son frère. Allah n'aime pas que l'on laisse à son frère. Si on essaye de prouver l'ignorance de quelqu'un, si on veut tout simplement générer de l'inimitié à l'égard d'un autre, tout cela sera condamnable. Qu'Allah fasse que nous puissions éviter ces péchés, que nous puissions accomplir de bonnes œuvres, que nous puissions aussi agir selon les commandements de Dieu, et que nous puissions mériter le paradis de son plaisir. Amin. Aujourd'hui aussi, j'ai un décès à annoncer. Mukarram Samiullah Saheb, fils de M. Mumtaz Ahmad Saheb de Shahzadpur, a été assassiné le 3 février dernier à Shahzadpur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Monsieur Samiullah avait fermé son atelier d'électricien et l'après-midi, il est parti chez lui. Et en cours de route, deux personnes à moto se sont approchées de lui. Une des personnes à moto lui a demandé la route et l'autre lui a tiré dessus à la tête et il est décédé sur le coup. Il avait 53 ans. Il était aussi un membre actif de la Jamaat. Il fut secrétaire Islawisha, Dawat Elallah, Zaim Ansarullah et Naib Nazim Ansarullah. Il était aussi un dernier là très actif. Il avait mis dans son magasin la MTA et il prêchait le message de la communauté. Et il avait organisé aussi des sessions de questions et de réponses chez lui. Il était très brave. Il était un moussi par la grâce d'Allah. Il s'était marié à deux reprises. Sa première femme et ses trois filles et un fils se trouvent au Canada. Et de son deuxième mariage, il avait eu un fils et une fille qui étaient avec lui. Qu'Allah accorde au martyr son paradis et exalte son statut. Et qu'Allah accorde la patience aux membres de la famille endeuillée, et qu'Allah soit le protecteur. Après les prières de Jumma et d'Asra, je vais diriger sa prière funéraire.